Jeff, on est le 2 décembre aujourd'hui et le 2 décembre, ça marque un anniversaire important au Québec. C'est le 50e anniversaire de l'adoption de la loi sur l'aide sociale. Mm-hmm. Et l'aide sociale, c'est intéressant parce que c'est peut-être la consécration de la chicane entre la gauche puis la droite politique, tu sais, puis sociale. Il y a les gens qui disent que on devrait pas payer des gens à rien faire. D'autres qui disent qu'on peut pas laisser les plus démunis tout seuls sans rien, il faut que s'en occuper.
Il y a des gens qui trouvent que le filet est trop serré, que ça devient un hamac. Il y en a d'autres qui disent que les mailles sont trop lousses puis qu'il y en a pas suffisamment pour les gens qui en ont réellement besoin.
Voilà. J'ai comme l'impression que le meilleur des compromis se trouve quelque part entre les deux. On en discute avec Serge Petitclair, qui est porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Bonjour, Monsieur Petitclair.
Oui, bonjour.
Vous publiez un texte dans Le Devoir ce matin, un texte qui est titré « 50 ans d'entraves au droit à l'aide sociale ». De quelles entraves principalement vous parlez?
Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, un peu plus tôt au Canada, il s'est mis en place toutes sortes de grandes réformes pour faire en sorte d'améliorer le filet de sécurité sociale. On a pensé souvent à la santé, à l'éducation, mais aussi l'assurance chômage et finalement les différentes lois d'aide sociale qui ont été mises en place dans les différentes provinces. Mais reconnaître un droit, c'est une chose. Ensuite, il faut le réaliser. Et dans la réalisation, des fois, c'est là qu'on voit qu'il y a des lacunes. Je pourrais donner des exemples. Mettons un seul exemple pour faire très simple. C'est pas tout d'avoir droit à une prestation. Encore faut-il pouvoir l'obtenir. Et souvent, il y a beaucoup de tracasseries administratives pour avoir droit à cette aide-là. Là, on parle de l'aide sociale, mais on pourrait parler de la même chose qu'on parle de programmes comme l'assurance chômage ou l'indemnisation pour les victimes d'actes criminels. C'est toujours compliqué d'avoir accès à une prestation. Donc, tu as beau avoir le droit, si tu n'as pas accès, ben ton droit ne veut pas dire grand-chose.
Mais certains diront que ces tracasseries administratives-là, c'est dans le but d'éviter que des gens en profitent indûment.
Ben écoutez, il y a une différence entre, s'assurer que les gens aient droit à une prestation auquel ils ont vraiment droit et de tout faire en sorte pour que les gens se découragent et ne fassent pas la demande. On a tous fait affaire avec différents types de services ou de programmes sociaux ou de services publics et ça devient difficile, un, de parler à un humain et ensuite, on nous demande tellement de papiers qu'il y a des gens qui peuvent se décourager ou il y a des gens qui pourraient avoir droit à d'autres types de prestations plus élevées. Mais un, ils sont pas informés et deux, même quand ils sont informés, il y a tellement de complications que les gens se découragent en fait. Ils se disent, ben, ce que j'ai, au moins je l'ai puis je vais rester là.
Et qu'on dénonce le programme ou plutôt qu'on soit en faveur, il y a quand même une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des préjugés qui sont très bien ancrés à l'égard des gens qui sont des bénéficiaires d'aide sociale. C'est aussi des préjugés que vous dénoncez.
Oui, ben écoutez, dès la mise en place de la loi, des discussions qu'il y a eu avant même la mise en place de la loi, on a fait des petites recherches historiques dans les dernières semaines, sortir des journaux des années 60, et puis ce qu'on voyait, c'était des fois des ministres ou des députés qui faisaient des commentaires, ouais, mais il faut pas que la prestation soit trop élevée, sinon il y a des travailleurs, des travailleuses qui vont quitter leur emploi pour aller à l'aide sociale. C'est le genre de discours qu'on entend encore aujourd'hui. Et ça vient de haut, ces commentaires-là. Ça vient même des ministres eux-mêmes. Et à travers les époques, encore aujourd'hui, on entend régulièrement ou des partis politiques, ou des commissions politiques, ou des commissions jeunes, ou autres de différents partis politiques nous dire ce genre de choses-là qu'on entend depuis 50, 60 ans. Dans tous les pays où on met en place des programmes d'aide sociale, on a toujours cette espèce de préjugé-là que les gens... Il faut tout faire pour que les gens n'y aient pas droit parce que les gens sont paresseux par nature, ils ne voudront pas aller sur le marché du travail, ce qui est complètement faux.
Oui, puis il faut faire aussi la différence entre les gens et des gens. Je pense que c'est surtout ça que les gens qui dénoncent le programme d'aide sociale, je pense que c'est surtout là-dessus. Par exemple, dans le contexte actuel qu'on connaît, là, on sait que des jobs, il y en a partout. Maintenant, on se dit, mais le problème, c'est pas les gens qui sont inaptes au travail qu'on veut pas aider, c'est qu'on a cette impression-là qui est persistante qu'il y a des gens qui seraient aptes au travail, mais qui travaillent pas. Puis là, en plus, ben, il y a des business qui cherchent des travailleurs à être obligés de fermer, même dans certains contextes, là.
Ben, c'est qu'en fait, il faut voir aussi c'est quoi la définition même de l'aptitude.
Absolument.
Parce que nous, on entend souvent ce commentaire-là, effectivement, des gens qui nous disent, ouais, mais qui sont aptes à travailler, ils ont juste à aller travailler. Mais ce que tu constates souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens, exemple, qui sont considérés aptes au travail. Ces gens-là n'ont même pas un secondaire 5. Et on a beau me dire que ça prend pas la tête à Pépinot pour travailler dans un Tim Hortons. Récemment, j'ai été dans un Tim Hortons et puis il y a une petite pancarte qui cherche des employés, puis c'est secondaire 5 minimum. C'est une réalité du marché du travail.
Ouais, mais M. Petitclerc, il y a des gens nous qui nous écoutent, qui nous témoignent de leur situation, des entrepreneurs, là, des gens qui ont des PME. Puis je vous annonce que quand le choix, c'est engager quelqu'un qui a un secondaire 3 ou fermé, ils vont prendre le secondaire 3 avant de fermer aussi. Là. Il y a quand même une certaine...
Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Je parlais d'un exemple très, très particulier. Ouais. Mais il y en demeure pour moi qu'il y a la question de l'instruction, de l'éducation, du nouveau diplôme. Et ensuite, quand on parle de capacité de travail, dans le programme d'aide sociale, c'est directement lié à ce qu'on appelle un rapport médical. Si une personne dépose une demande pour aller vers ce qu'on appelle le gros chèque semaine, là, la contrainte salaire en emploi, il faut déposer un rapport médical et c'est pour une raison médicale qu'on va t'accorder une contrainte salaire ou une contrainte temporaire. Et en réalité, il faut que les gens soient au courant que ça existe et il y a beaucoup de personnes qui se voient refuser des contraintes pour toutes sortes de raisons. Je vais vous en donner un seul, une personne qui est impliquée dans une des instances du collectif. Cette personne-là, en soi, chacun de ses problèmes de santé ne lui donne pas droit à une prestation de contrainte salaire à l'emploi. Mais lorsqu'on additionne tous ces problèmes ensemble, c'est évident que cette personne-là a de la difficulté à retourner sur le marché du travail parce que un tel problème amène une prise de médicaments, qui amène un problème de tremblement, qui amène un problème de poids, qui amène un problème de déplacement. Alors, si on tenait compte de l'ensemble de sa réalité, cette personne-là, elle ne peut pas aller sur le marché du travail, mais selon les statistiques, elle fait partie des adultes qui sont considérés comme aptes au travail, ce qui n'est pas le cas. Et l'autre chose, c'est qu'on a des gens qui ont une capacité de travail, mais limitée. Mm-hmm. Donc, des gens qui pourraient travailler peut-être, mettons, 10, 12, 13, 14 heures par semaine. Mais ces personnes-là, ce qui arrive, c'est de la façon qu'est construite la loi et la possibilité d'avoir des gains de travail, tout en conservant une prestation, une partie de prestation, c'est que ces montants-là sont tellement bas, d'ailleurs, ils n'ont pas été indexés depuis 98, que ça décourage les gens d'aller sur le marché du travail. Donc, dans le fond, c'est l'ensemble de ces... Quand je vous parlais de tracasserie administrative au début, là, c'est ça je veux dire.
Ouais, je comprends.
C'est qu'on fait tout pour nuire aux gens et ensuite on dit ben les gens veulent pas participer.
Ben,
ouais, mais...
Des cas de gens qui sont effectivement inaptes au travail et qui ont peut-être pas les bonnes prestations, il y en a. Mais c'est fou parce que là, pendant que vous me parlez, il y a des gens qui nous envoient des textos en temps réel. Puis moi-même, si j'y pense, là, je peux vous nommer des gens que je connais qui sont des bénéficiaires d'aide sociale puis qui ont un travail au noir en plus. Disons que c'est rien pour redorer un peu la réputation des bénéficiaires d'aide sociale.
Ça vous aide pas.
Ah oui, non, mais c'est certain. Mais écoutez, ça, c'est tout le monde connaît quelqu'un qui est un plombier travaille au noir ou un garagiste qui charge des dépenses inutiles, des réparations inutiles. Je veux dire, si on fait le tour de comportements frauduleux ou douteux, je dis c'est dans toutes les classes de la société, c'est dans tous les domaines. À chaque année qui sort des questions venant de différents médias en disant il y a eu un rapport qui dit qu'il y a tant de fraudes à l'aide sociale, et généralement, les ministres en bas, c'est toujours la même chose. Il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Les montants sont beaucoup moins élevés qu'ailleurs, d'ailleurs. Parce que les prestations sont tellement basses que ça prendrait beaucoup de temps pour que ça représente des milliards et des milliards, comme ça peut être le cas quand on parle d'évasion fiscale.
Vous dites que les prestations sont basses, mais il y a quelque chose... Si on se met dans la peau d'une personne qui travaille à temps plein au salaire minimum, là, il y a quand même quelque chose de frustrant, M. Petitclerc, à se dire, moi, là, je roule à peu près là, à 1000 quelques cents, là, 1400 net, là, 1500 net, je travaille comme un forcené à tous les jours de la semaine, là, puis... La personne qui travaille pas, elle gagne à peu près la moitié de ce que moi je gagne, mais elle a pas travaillé une heure dans sa semaine. Il y a quand même quelque chose qui... Moi, je la comprends, la frustration de ces personnes-là.
Ah non, mais je peux comprendre, mais ben, je dirais deux choses là-dessus. Premièrement, c'est beaucoup moins que la moitié.
Ben, c'est 760, c'est ça, j'ai les chiffres pas loin.
Une prestation de base, c'est 647 $. Vous pouvez avoir des montants supplémentaires en remplissant son rapport d'impôt.
D'autres avantages comme les soins dentaires,
le
transport médical.
Mais je dirais deux choses là-dessus. La première, c'est que la loi d'aide sociale, ce qu'elle dit et ce qu'elle a toujours dit depuis le début, c'est qu'on doit assurer un minimum vital pour que les gens puissent vivre décemment. Et actuellement, la prestation rend difficilement possible, ne serait-ce que de se payer un loyer, et on parlera pas du reste. Et pour ce qui est du travailleur ou de la travailleuse qui travaille au salaire minimum, ben justement, c'est un autre chantier qu'on pourrait discuter longuement. Vous pourriez me réinviter pour qu'on parle de salaire minimum, parce que il faudrait peut-être s'attaquer à ça aussi. Je dirais, c'est l'ensemble des politiques sociales qu'il faut peut-être revoir. Là. On parle d'aide sociale depuis tantôt, mais on pourrait faire des liens entre la loi d'aide sociale, ce qui se passe avec l'assurance emploi, ce qui se passe avec les prestations de vieillesse. Prenez une personne, par exemple, qui est à l'aide sociale et qui arrive à 60 ans. Cette personne-là est obligée de faire sa demande à la Régie des rentes pour avoir droit à ses prestations à partir de 60 ans. Mais à l'hypothèque, sa retraite par la suite. Et on a souvent l'image qu'une personne à l'aide sociale, c'est une personne qui est à l'aide sociale depuis sa naissance. La réalité, c'est que la plupart des gens se sont promenés entre l'emploi, le chômage, l'aide sociale, peut-être des fois des gens, des femmes, ils ont eu des enfants, ils ont été à la maison pendant une partie de l'enfance. Mmh. La vie des gens évolue. Ouais. Et puis c'est l'ensemble des prestations sociales. Okay. 50-60 ans après la Révolution tranquille, peut-être qu'on devrait revoir notre filet de sécurité sociale. Est-ce que les marges sont trop petites, sont trop grosses? Justement, c'est peut-être le genre de débat qu'on pourrait avoir.
Merci, M. Petitclerc, d'avoir pris du temps pour nous. On se reparlera de salaire minimum un autre tantôt.
Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée. Serge Petitclerc est porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Moi, je suis pas du tout dans le casser du sucre sur le dos des puis les BS retourner travailler. Puis je suis pas là-dedans. C'est juste que. Puis c'est pour ça que je l'ai dit tantôt d'entrée de jeu, là. C'est parce que. Pour moi, les deux extrêmes sont pas bons. Tu sais, un système où l'aide sociale est trop généreuse, c'est vrai que ça encourage pas les gens à retourner au travail. Mm-hmm. C'est un fait. Puis c'est les gens qui se lèvent le matin puis qui vont travailler, qui payent pour les autres. Puis il y a quelque chose de profondément frustrant là-dedans. Puis quelque chose qui crée des dissensions à la population. Sauf l'autre extrême, pour moi, il est pas mieux, là. L'autre extrême où il y en a aucun filet de sécurité, ben, forcément, c'est direct. Il y a plus d'itinérance, il y a plus de violence, plus de criminalité, il y a plus de monde, de gens dans les rues. C'est ça, les faits. Il faut se trouver un chemin quelque part dans le milieu. Puis c'est pour ça qu'on regarde chacun des paramètres puis qu'on se dit, ben, est-ce que ces paramètres-là qui sont en place sont les bons? Est-ce que le montant y est le bon? Est-ce qu'on le donne à la bonne personne? Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des problèmes dans le système d'aide sociale, là, tu sais.
Ce qui est intéressant, c'est de voir les chiffres aussi. On a atteint un sommet de prestataires en 1996. Il y en avait 813 249 au Québec. C'est du monde en battance. Aujourd'hui, on est autour de 380 000. Et quand on regarde le montant qui est accordé, allons-y en dollars constants, là, pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes, là. En 1977, c'était l'équivalent de 949 $ qui était accordé aux prestataires de l'aide sociale. Aujourd'hui, on est à 644. C'est le plus bas montant depuis les années 70 en termes de dollars constants. Donc ça, c'est un des combats, justement, du collectif pour un Québec sans pauvreté. Si jamais ça vous tente de lire son texte à M. Petitclerc, c'est dans Le Devoir ce matin, 50 ans d'entrave au droit à l'aide sociale. Il est midi 5. Vous écoutez Deux Hommes en Onde. Au retour, les manchettes avec Julie Grenon.